journal vous est présenté par Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. Deux djihadistes français condamnés à mort ce matin en Irak après un procès qui a duré moins d'une heure. Les procès se succèdent à Bagdad. Au total, en une semaine, 9 Français condamnés à la peine capitale. Au terme de sa visite de 3 jours en Roumanie, le pape François demande pardon aux Roms, victimes de discrimination. Angela Merkel affirme que son gouvernement va poursuivre son travail malgré la démission d'Andrea Nahles, la chef de ses partenaires sociaux-démocrates. Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Propos de Laurent Nunez, nous écouterons le secrétaire d'État à l'intérieur qui n'a pas de regrets sur la gestion des manifestations de gilets jaunes. Au même moment, des gilets jaunes gravement blessés lors de ces rassemblements ces derniers mois défilaient dans Paris. Panique à Venise devant un bateau de croisière géant hors de contrôle. 4 blessés légers et la polémique relancée sur la présence de ces énormes paquebots dans la lagune. Le journal des sports avec Cédric Langrotte. À Liverpool, les héros de la Ligue des Champions célébrés par leur public. Football encore, France-Bolivie. Ce soir, match amical, Roland-Garros, Federer et Nadal en quart de finale. Et la rencontre, Benoît Paire face à Nico Schiri. La voile, ça y est, les 47 skippers de la solitaire du Figaro ont pris le large, direction le sud de l'Irlande.
France Inter.
Ils sont djihadistes français, ils ont été capturés par les forces kurdes en Syrie, puis remis aux autorités irakiennes qui les jugent en ce moment. 2 Français âgés de 27 et 32 ans ont été condamnés à mort aujourd'hui par un tribunal antiterroriste à Bagdad, reconnu coupable d'appartenance au groupe État islamique. Cela porte à 9 le nombre de djihadistes français condamnés à la peine capitale, la pendaison, en une semaine de procès successifs. À Bagdad, Céline Martelet a assisté ce matin au déroulement plutôt rapide des procès de ces 2 Français.
2 audiences dans une toute petite salle, une chambre spéciale au bout d'un long couloir qui traverse la cour pénale, un bâtiment très bruyant. Les anciens djihadistes comparaissent toujours devant cette chambre spéciale. C'est donc là que les 2 Français ont été amenés ce matin par des policiers irakiens. Tenue jaune, claquettes aux pieds, barbe et cheveux coupés, ils ont été conduits dans une cage en bois face à 3 juges. Juste derrière cette cage en bois, assis sur un banc, un représentant de l'ambassade de France. Pour les assister, un avocat irakien commis d'office, Ayad Al-Saidi, a défendu ce matin Vianney Ouraghi et il a rencontré son client français quelques minutes seulement avant le début de l'audience.
Avant l'audience, je l'ai rencontré rapidement. Il m'a dit ce qu'il attendait du procès. Ensuite, j'ai consulté son dossier et je suis venu lui expliquer. À l'audience, il n'a pas dit la même chose que dans son dossier. Tout cela, les juges l'ont vu et l'audience s'est déroulée comme prévu, comme vous l'avez vu.
Devant les magistrats, Vianney Ouraghi, 28 ans, a répété qu'il n'avait jamais combattu, jamais été en Irak et qu'il avait été juste un employé de notaire sous l'État islamique, une version qui vient démentir des aveux faits devant un juge d'instruction irakien. Pour le second français, l'audience a été encore plus rapide. Lundi dernier, devant les magistrats, Fodil Tahar Ouidad a déjà nié avoir combattu. Ce matin, le juge a juste lu le rapport médical réclamé pour déterminer d'où provenaient les marques sur son corps. Le français assure qu'elles sont liées à des coups reçus en détention. Une affirmation balayée par le médecin légiste en quelques secondes. L'homme, originaire de Roubaix, a donc été condamné également à la peine capitale.
Céline Martelet à Bagdad, réaction de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye après ses condamnations à mort. Elle réaffirme que la France, opposée à la peine capitale, intervient au plus haut niveau, ajoutant que la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente. En Algérie, le Conseil constitutionnel juge que l'élection présidentielle est impossible à organiser après le rejet des 2 seules candidatures à ce scrutin prévu le 4 juillet. Cette présidentielle, qui est donc annulée, était massivement rejetée par les manifestants algériens qui veulent le départ du système au pouvoir. Pour la dernière étape de son voyage de 3 jours en Roumanie, le pape François a rencontré des membres de la minorité rom qui compte entre 1 et 2 millions de personnes dans ce pays de 20 millions d'habitants, une communauté rom pauvre et souvent marginalisée. Le pape a demandé pardon aux roms pour les discriminations commises par l'Église. Reportage sur place, Mathilde Imberti.
Une chorale d'enfants accueille ce pape des périphéries qui a fait de cette étape un incontournable de sa visite en Roumanie. Le chef de l'Église catholique est venu demander pardon à cette population décimée pendant la guerre, encore aujourd'hui discriminée.
Dans mon cœur, je porte un poids. C'est le poids des discriminations, des ségrégations et des mauvais traitements subis par votre communauté. L'histoire nous dit que même les chrétiens, même les catholiques, ne sont pas étrangers à tant de mal. Je voudrais demander pardon pour cela. Je demande pardon au nom de l'Église, au Seigneur et à vous.
Les paroles du pape émeuvent Dorine, 16 ans, victime, dit-il, de racisme.
Oui, c'est important qu'ils disent que le racisme est partout. Le racisme, c'est terrible. Quand tu sors dans la rue, on te pointe du doigt. Regarde, regarde, c'est un Rome, un gitan. On n'aime pas ça, bien sûr.
L'église est trop petite pour accueillir tout le monde. Les cardinaux doivent sortir pour faire place aux familles roms. Le pape salue, enjoué, et rejoint son avion. Plage en Roumanie, Mathilde Imberti, France Inter.
En Allemagne, la chef du parti des sociaux-démocrates, Andrea Nahles, a démissionné. Conséquence de la débâcle de son parti aux européennes, il n'a obtenu que 15% des votes, largement devancé par les Verts à plus de 20%. Les sociaux-démocrates font partie avec la CDU de la coalition gouvernementale dirigée par Angela Merkel. Alors, le départ de Madame Nahles peut-il accélérer, par effet domino, la décomposition du gouvernement? Angela Merkel a dit non cet après-midi. À Berlin, David Philippot.
Angela Merkel était restée à distance des micros au lendemain des européennes, mais avec le départ de la chef du parti partenaire de son gouvernement, l'équilibre de son pouvoir chancelle, la chancelière a donc voulu envoyer un message de stabilité.
Nous allons poursuivre le travail du gouvernement avec sérieux et surtout avec le sens des responsabilités, car les thèmes auxquels nous devons apporter des réponses sont sur la table, tant en Allemagne qu'en Europe ou qu'ailleurs dans le monde.
Angela Merkel, qui aimerait aller au terme de son mandat en 2021, mais en annonçant sa volonté de ne pas se représenter à sa succession, la chancelière n'est plus maîtresse de son destin, elle est à la merci de son partenaire de coalition. Le SPD s'enfonce dans la crise et, départ de sa chef ou pas, le Parti social-démocrate reste donc confronté au même dilemme, rester dans un gouvernement où il ne gagne rien ou alors provoquer de nouvelles élections où il risque de tout perdre. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Les États-Unis sont prêts à commencer à parler à l'Iran sans condition préalable. Déclaration en Suisse du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. C'est la première fois que l'administration de Donald Trump, qui s'est retiré il y a plus d'un an de l'accord international sur le nucléaire iranien et multiplie depuis les sanctions économiques et la pression diplomatique et militaire, c'est la première fois que l'administration Trump dit aussi clairement qu'elle est prête à engager le dialogue avec Téhéran. Les blessés des manifestations de Gilets jaunes ont manifesté aujourd'hui à Paris, de la Bastille à la Nation, une marche qu'ils ont baptisée « Marche des mutilés ». Ils étaient une vingtaine en tête d'un cortège d'environ 400 personnes. Certains ont perdu un œil, une main. Ils demandent l'interdiction des lanceurs de balles de défense et de certaines grenades lacrymogènes qu'ils jugent inutilement dangereuses. Au même moment, interrogé sur LCI, Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, a expliqué qu'il n'a pas de regrets sur la gestion des manifestations de gilets jaunes.
Je ne présente pas d'excuses, je m'en remets à la justice de mon pays. Quand il y a une agression contre des policiers et qu'il y a une riposte proportionnée, oui, il peut y avoir des blessés. C'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça dans le processus qui est le nôtre et qui permet tous les jours de sauver la République.
Il faut accepter ces mutilations.
Il faut surtout ne pas rendre acceptable le fait que l'on puisse s'en prendre à des policiers, aux institutions de la République, de manière violente pour exprimer des convictions. Mais quelles sont ces convictions? Donc c'est ça qu'il faut condamner avant tout. Il est hors de question de retirer le lanceur de balles de défense. C'est une arme indispensable quand des situations dérivent en émeutes urbaines, en violences urbaines. Vous savez, le LBD, il est utilisé tous les jours par nos policiers et nos gendarmes. Et heureusement, pour mettre fin à des troubles à l'ordre public, pour mettre fin à un refus d'obtempérer, pour se protéger quand leur vie est en danger. Donc il est hors de question de revenir sur le LBD.
Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur. Mouvement de panique aujourd'hui à Venise au moment de l'arrivée d'un bateau de croisière géant totalement hors de contrôle. Il a heurté un quai, puis un bateau touristique, faisant 4 blessés légers. C'était la conséquence d'une panne de moteur. Cet incident relance le débat sur l'interdiction au plus vite de ces bateaux immenses qui gâchent le paysage de la lagune et menacent les fondations de la ville. Correspondance en Italie à Rome, Olivier Tosseri.
Scène de panique à Venise, les sirènes du navire de croisière hurlent, les touristes en larmes crient en s'enfuyant sur le quai. Sur les images, amateurs qui tournent en boucle sur les médias italiens, on voit l'énorme paquebot s'approcher dangereusement du quai où est amarré un petit bateau fluvial touristique qu'il finira par percuter. Certains de ses passagers affolés se jettent à l'eau. La catastrophe a été évitée de justesse, mais la ville est sous le choc. Le ministre des Transports demande l'interdiction au plus vite des navires de croisière à Venise. Son maire rappelle que depuis 8 ans, il attend des solutions concrètes du gouvernement, tout comme l'UNESCO qui soutient le combat des mouvements écologistes qui réclament le bannissement pur et simple des géants des mers. Un plan a été adopté en 2017, mais il faudra au moins 4 ans pour le mettre en pratique. Il prévoit notamment que les navires pesant 100 000 tonnes et plus soient redirigés, comme les porte-containers et les pétroliers, vers la ville industrielle voisine de Marghera. Selon l'Association internationale des compagnies de croisière, ces navires touristiques génèrent chaque année des retombées économiques de 436 millions d'euros en Italie, dont 283 millions d'euros à Venise, une manne financière à laquelle il est très difficile de renoncer. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
À Chicago, au Congrès mondial de cancérologie, présentation aujourd'hui d'une étude sur le cancer du pancréas. Elle montre que ce cancer peut présenter dans certains cas une altération génétique sur laquelle un traitement déjà utilisé pour les cancers du sein et des ovaires peut agir. Mais le bénéfice de ce traitement reste mince. Pour le cancer du pancréas depuis toujours, les bonnes nouvelles sont rares. À Chicago, Véronique Julia.
12 à 14 000 nouveaux cas et presque autant de décès en France chaque année pour ce cancer qu'on dit depuis toujours de très mauvais pronostic. Il est souvent détecté tard, à un stade avancé, avec des métastases dans ce cas la survie moyenne ne dépasse pas les 12 mois. Le traitement classique, c'est de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Les protocoles ont beaucoup progressé ces dernières années. On fait donc un peu mieux aujourd'hui, mais finalement pas tant que ça. Le professeur Philippe Ruzniewski est spécialiste du pancréas à l'hôpital Beaujon à Paris.
Il y a quelques années, il était courant de dire que quelqu'un qui avait des métastases dans le foie d'un cancer du pancréas avait une espérance de vie de 3, 4, 5 mois. Aujourd'hui, on est quand même au minimum de l'ordre de 9 à 12 mois. Ça n'est pas énorme, mais on sait bien qu'en cancérologie, les choses se passent toujours comme ça.
Par tout petit pas, donc, on avance en combinant des chimiothérapies notamment. On gagne quelques semaines ou quelques mois. L'immunothérapie, en revanche, ne marche pas pour ce cancer. Et de fait, à chaque congrès, les échecs thérapeutiques restent plus fréquents que les succès.
Les tiroirs des essais cliniques sur le cancer du pancréas sont quand même assez souvent remplis d'échecs.
Autre caractéristique du cancer du pancréas, il y a de plus en plus de cas d'année en année, sans doute parce que le diagnostic s'est amélioré, mais des facteurs environnementaux et génétiques ne sont pas à exclure. Les femmes sont touchées autant que les hommes. L'âge moyen du diagnostic est d'environ 65 ans. Chicago, Véronique Julia, France Inter.
Le feu qui s'est déclaré ce matin dans des entrepôts à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise a été circonscrit vers 15h. Une centaine de pompiers ont été mobilisés. Au total, 2000 mètres carrés sont partis en fumée. Le feu a pris dans un entrepôt qui traite des matières plastiques et des acides. L'opération pour maîtriser l'incendie a été difficile pour les pompiers à cause des produits chimiques. Plusieurs explosions se sont produites et les pompiers ont dû intervenir avec des masques spécifiques pour se protéger. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. C'est la fin du week-end de l'Ascension. On va faire le point sur la circulation dans un instant. En tout cas, pour les professionnels du tourisme, ce long week-end de 4 jours, a été un franc succès, comme l'explique Laurent Duc, président de la branche hôtellerie française de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, interrogé par Olivia Ferrandi de France Info.
Les ponts étaient mauvais en début de mois, il a bien fallu ce week-end pour que l'hôtellerie remplisse massivement la côte atlantique, la Bretagne et aussi Paris et les grandes villes. Puisqu'on a eu quand même dans les destinations, même habituellement moins prisées, je pense que c'est de l'opportunité de proximité, des gens qui sont partis parce qu'il faisait beau et qu'il était agréable de sortir. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les destinations comme l'Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, le lac d'Aix-les-Bains, rengorgent de personnes. Pas simplement des locaux, des gens qui sont venus, ou des grandes villes, ou des Suisses, ou des gens qui sont venus pour le long week-end.
Et est-ce que vous savez, dès maintenant, si l'été sera porteur, quel taux de réservation pour l'instant dans les hôtels en France ?
Pour l'instant, vous savez, chaque année est différente, et de toute façon, les gens réservent de plus en plus tard. Donc le taux de réservation est habituel. Si la météo continue sous des auspices aussi agréables, ça devrait être un bon été.
Voilà, Laurent Duc de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. La circulation, donc, c'est maintenant.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
Le retour sur les routes après ce week-end de l'Ascension, beaucoup de monde. Soazic Bourg est au PC Mobilité. Bonsoir Soazic.
Bonsoir à tous.
Circulation difficile dans la Drôme.
Exactement, oui. Sur l'A7 entre Orange et Valence, comptez 1h20 de bouchon et 33 minutes ensuite de Vienne jusqu'à Lyon et Saint-Romain-en-Gier. Il y a aussi du monde sur la 43 pour aller de Lyon à Chambéry dans les deux sens de circulation. Et puis dans les Hautes-Alpes, là ça bouchonne près de Gap et du parc national des Écrins. 40 minutes sur la départementale 1075. Entre la Bâtie-Moisson et la Forie. Un peu plus haut, dans l'Ain, comptez 1 heure de bouchon sur la 40 entre Bourg-en-Bresse et la Suisse. En Bretagne, les difficultés se concentrent sur la Nationale 12 de Saint-Brieuc à Lamballe quand vous allez vers Dinan, une demi-heure en tout. C'est compliqué sur la 13 entre Caen et Rouen jusqu'au péage de Buchelet dans les Yvelines. Et puis enfin sur la 10, ça roule en accordéon de Sainte jusqu'à Châtellerault.
Soazic Bourg, merci. Les couleurs du ciel maintenant.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France.
Cette journée de lundi sera souvent plus fraîche que ce week-end et le ciel moins serein pour la plupart des régions, avec tout de même encore pas mal de soleil pour le quart sud-est, la Corse, le sud de la Garonne et près de la Manche. Mais ailleurs, retour de pluie ou d'averse sous un ciel plutôt hésitant. En seconde partie de journée, l'instabilité va se renforcer sur les régions de l'Est avec des orages locaux possibles de l'Alsace-Lorraine à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures matinales vont généralement afficher 12 à 17 degrés avec une pointe de fraîcheur supplémentaire pour le Finistère et le Cotentin. Il est prévu 9 à Brest, 10 à Cherbourg. En journée, les régions méditerranéennes et plus largement le quart sud-est vont garder les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Par contre, ailleurs, la baisse sera sensible de l'ordre de 3 à 5 degrés en général, jusqu'à 10 au nord de la Loire.
Et maintenant, l'actualité sportive, le sport. Bonsoir Cédric Langrotte.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Cédric, d'abord, bien sûr, les héros de retour au bord de la Mersey, la ville des Beatles.
La Mersey, c'est le fleuve qui se jette dans la mer d'Irlande au niveau de Liverpool, évidemment, la cité côtière britannique, championne d'Europe pour la 6e fois hier après la victoire des Reds en finale de la Ligue des Champions. Fanny Lechevestrier, vous êtes à Liverpool pour France Inter. Vous avez vécu la rencontre hier au milieu des fans totalement survoltés. Et ça y est, les joueurs sont de retour. Vous avez vécu cet après-midi cette parade.
Eh ben, en fait, on n'a pas encore tout à fait vécu parce que, pour tout vous dire, eh bien, les derniers ne sont toujours pas passés sur les derniers kilomètres du tracé. On n'a pas encore vu les joueurs. C'est une très, très longue attente. C'est Jurgen Klopp, hein, l'entraîneur de l'équipe de Liverpool, qui disait hier soir en conférence de presse, on se rendra vraiment compte de ce qu'on a réalisé quand on va présenter la coupe à notre ville. Eh bien, je peux vous dire qu'il doit s'en rendre compte puisque les premières estimations de la police de Liverpool annoncent plus de 500 000 personnes massées sur ce tracé qui ne fait pas plus de 10 km, eh bien, avec le bus impérial, les joueurs et leurs entraîneurs et leur staff vont mettre plus de 3 heures pour parcourir ces 10 km. C'est vraiment une foule incroyable.
Fanny Lechevestrier qu'on a perdu du côté de Liverpool, mais on a compris en tout cas le côté impressionnant, 500 000 personnes massées au bord de ces 10 km de tracé du côté de Liverpool. Fanny Lechevestrier, envoyée spéciale donc de France Inter,
et
du côté de la ville des Beatles.
Et les fans ne sont pas trop déçus finalement par ce match qui était un peu ennuyeux hier
ennuyeux
soir,
mais il y a la victoire au bout, ouais, c'est ça qui compte.
C'est vrai.
Football, c'est aussi ce match amical des Bleus ce soir à 21h, France Bolivie à Nantes, match de préparation avant les deux éliminatoires de l'Euro à venir en Turquie et en Andorre. Et dans les tribunes de la Beaujoire, Pierre, il y aura la famille Gosselin au grand complet avec cette petite particularité. Monsieur est français, madame est bolivienne, Louis de Bergevin.
Dans la famille Gosselin, les supporters les plus fervents, c'est eux, Maëlys et François, 7 et 5 ans.
Au stade de foot pour regarder un match la Bolivie contre la France.
Mais choisir entre la France et la Bolivie, c'est encore plus difficile que de choisir entre papa et maman.
Vous allez supporter qui ?
Les deux.
Mon fils, il m'a demandé s'il pouvait être moitié France, moitié Bolivie. Donc je lui ai dit d'accord, bien sûr.
Pour Maria aussi, impossible de faire un choix.
Je suis sûr que ça va être un nul en fait. Je vais supporter les deux.
Vous voulez un match nul ?
Jouer mes deux grands amours en fait.
Le plus important ce soir, c'est de vivre un moment intense et unique, car c'est la première fois que ces deux pays se rencontrent. Alors pour les Gosselins, pas question de préparer ça à la légère.
On a surtout commencé par acquérir un drapeau bolivien. On a cherché des maillots boliviens, sauf qu'on n'a pas réussi à en trouver. Je suis allé sur Amazon Espagne et en fait, les délais de livraison étaient trop longs.
Ce soir, ils auront tous trois bandes de maquillage, rouge, jaune, vert sur une joue, bleu, blanc, rouge sur l'autre. Et elles pourraient se troubler au moment des hymnes. Maria sait déjà qu'elle versera une petite larme.
Ah oui, c'est sûr, là, c'est sûr. Tellement de choses, tellement de souvenirs, Ah, je ne peux pas parler.
Le reportage à Nantes de Louis de Bergevin. Mais au-delà des hymnes et des symboles, il y a surtout du travail, évidemment, pour les Bleus avant ces deux matchs éliminatoires dont je parlais tout à l'heure. Raphaël Varane, capitaine ce soir, n'a pas l'intention de négliger cette fin de saison.
On porte un maillot qui nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on reste motivé. Cette année, on a un match de préparation avant deux matchs officiels et deux matchs importants pour la qualif pour l'Euro 2020. Donc on est mobilisé et on n'est pas là pour préparer les vacances, mais on est là vraiment pour être performant et gagner des points.
Raphaël Varane avec Cédric Guillou.
Oui, Cédric est le défenseur des Bleus qui peut-être dans un coin de sa tête ce soir aura à l'esprit que son club formateur Lens joue sa saison ce soir.
Avec le barrage d'accession à la Ligue 1, le match retour se joue à Dijon exactement à la même heure que France-Bolivie. L'aller s'était soldé jeudi par un nul un partout. Les sang et or portés par un public toujours aussi survolté rêvent de retrouver l'élite 4 ans après l'avoir quitté. Coup d'envoi, je vous l'ai dit donc, à 21h. Notez qu'en ce moment même, le Gazélec Ajaccio et le Mans s'affrontent pour une place en Ligue 2 cette fois et le score pour l'instant est toujours de 0-0.
Cédric Langrotte, bien loin de l'île de beauté, une île de tennis à l'ouest de Paris.
Il y a une forme de beauté tout de même, dans l'emblématique couleur orange de la terre battue Roland-Garros avec le début aujourd'hui des huitièmes de finale. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Et on vient de vivre un match d'anthologie, ça vient de se terminer, entre Stan Wawrinka et le grec Tsitsipas.
Un match dantesque remporté finalement il y a quelques secondes par Stan Wawrinka en 5-7. Il aura fallu à Stan Wawrinka 5h09 pour se débarrasser du grec Stefanos Tsitsipas. Stan Wawrinka s'impose en 5-7. 7-6, 5-7, 6-4, 3-6 et 8-6 dans le cinquième et dernier set. Un match extraordinaire, véritablement dantesque entre ces deux joueurs. Un match à suspense, un match indécis jusqu'au bout parce que Tsitsipas a eu sa chance dans ce cinquième set. Il a bénéficié de balles de break pour servir ensuite pour le match, mais malheureusement, il n'a pas réussi à les convertir, à les concrétiser. Il a laissé passer sa chance. En revanche, Stan Wawrinka a saisi la sienne pour finalement s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale. Alors maintenant, après ce match, là, maintenant que ce match est terminé, eh bien maintenant c'est Benoît Paire qui va rentrer sur le court, Suzanne Lenglen, pour affronter Kei Nishikori, le numéro 7 mondial. Benoît Paire va tenter tout simplement de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem. En revanche, la chose que l'on ne sait pas, c'est si le match va pouvoir aller à son terme parce qu'il est déjà tard, 19h23. Si le match dépasse les 21h30, eh bien évidemment, il sera interrompu et reporté à demain.
Et vivement le tout nouveau Roland Garros avec les spots pour éclairer et pouvoir jouer de nuit. Fabrice, de son côté, de leur côté même, j'ai envie de dire, Roger Federer et Rafael Nadal se sont aussi qualifiés sans trembler.
C'est vrai, si qualification de Nadal et Federer et comme un clin d'œil, l'Espagnol et le Suisse ont poussé le vice à s'imposer tous les deux sur le même score, 6-2, 6-3, 6-3 et tous les deux face à des Argentins. Federer a surclassé Leonardo Meyer et Nadal a balayé Juan Ignacio Landero. L'Espagnol, 11 fois vainqueur de Roland Garros, a signé aujourd'hui sa 90e victoire porte d'Auteuil. C'est un phénomène, il n'a perdu que deux matchs depuis ses débuts à Roland Garros en 2005. Nadal disputera son 13e quart de finale à Roland-Garros. Roger Federer, lui, n'a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi. Il disputera mardi son 54e quart de finale en Grand Chelem. 54 quarts de finale en 76 Grand Chelem disputés depuis 1999. Federer affrontera en quart de finale Stan Wawrinka. Nadal, lui, attend toujours le nom de son futur adversaire, soit Benoît Paire, soit Kei Nishikori.
Fabrice Abgral en direct depuis Roland-Garros pour France Inter. Merci à vous. Dans le tableau féminin, qualification de Petra Martic, Marqueta von
Andruzova et Johanna Konta. Le dernier match est en train de se dérouler entre Sloane Stephens et Garbine Muguruza. Demain, c'est le retour de Gaël Monfils face à l'Autrichien Dominic Thiem. À suivre aussi Novak Djokovic qui sera opposé à l'Allemand Struff, ainsi que Simona Halep, la tenante du titre, face à Iga Swiatek.
Cédric, une question, mais vous allez pouvoir répondre facilement. Qu'est-ce qui est blanc et noir et qui jouera en top 14 la saison prochaine?
La réponse, un joueur de Brive. Le CAB a remporté cet après-midi la finale d'accession. Victoire 28 à 22 face à Grenoble. Une saison seulement après avoir quitté le plus haut niveau, les Corréziens le retrouvent. Eux qui avaient perdu la finale d'accession, c'était le barrage d'accession aujourd'hui, autant pour moi, face à Bayonne dimanche dernier. Thomas, qui est le talonneur briviste.
Voilà, l'objectif de la saison est assuré. Et pour la Brive, pour la Corrèze, tout ça, c'est très bien. Et pour nous, c'est un très bon moment. Quoi. C'était un match à la vie et à la mort. Voilà, c'était très compliqué à gérer. On a souffert, on a eu des moments compliqués. Des regrets parce qu'on n'est pas champion de France. Mais voilà, je pense que c'est aussi beau et à partager devant le public corrézien, ça rattrapera quand même beaucoup de choses.
Thomas Acquier, le talonneur du CA Brive Corrèze Limousin. Une première sur le Tour d'Italie. Le Giro a été remporté cet après-midi par un équatorien, Richard Carapaz de l'équipe Movistar. Il finit à plus d'une minute du deuxième Vincenzo Nibali. Le premier français, Valentin Madouas, est 13e. Quant à Arnaud Démare, il termine deuxième du classement par points.
Cédric, on parlait de la mer d'Irlande tout à l'heure à propos de Liverpool. C'est maintenant au large de la mer Celtique que nous allons.
Et comme je vois que vous aimez la géographie, Pierre, la mer Celtique, c'est celle qui se situe entre la Bretagne et l'Irlande. Et c'est précisément le chemin que vont emprunter les 47 concurrents de la solitaire du Figaro. Ils sont partis tout à l'heure de Nantes, direction Kinsale, au sud donc de l'Irlande, un millier de kilomètres environ. Et pour cette 50e édition de la solitaire, les organisateurs ont vu les choses en grand. Il y a 4 étapes en tout, mais elles sont corsées, plus longues que d'habitude. Loïc Perron a fait son retour sur les bateaux. Il nous parle justement de ce parcours.
C'est pas la plus compliquée, c'est presque même la plus simple. Les autres sont beaucoup plus difficiles. On traverse une fois la Manche, un peu au large, à l'extérieur, a priori, de tous les rails. Non pas les rails de cargo, on va les traverser, bien sûr, mais c'est une étape un peu plus de large, ça c'est sûr. L'arrivée sur l'Irlande peut être un peu complexe parfois. On va virer ce fameux phare du Fastnet, le grand phare mythique du sud d'Irlande. Mais non, c'est la mise en jambe qui va être très agréable, me semble-t-il, même si ça va être assez vanté, vraisemblablement. La deuxième va devenir très compliquée, va commencer par l'être. On va monter sur cette fameuse île de Man entre l'Irlande et l'Écosse et l'Angleterre. Et puis enfin, la troisième, à mon avis, sera l'étape de tous les dangers. Roscoff, cette boucle avec deux traversées de la Manche, passage du Rat Blanchard, du Ratsin, du Chenal du Four, des endroits où il y a jusqu'à 10 nœuds de courant. Pas de vent, du vent, du mouillage, des cargos, enfin, ça va être l'enfer.
Et on verra bien si l'avenir lui donne raison. En tout cas, en fonction des conditions météo, les plus rapides pourraient toucher terre à Kinsale dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis tiens, on était à Roland-Garros et on a parlé de rugby. Je vous propose une sorte de mélange entre les deux. Le Paris Sevens, un tournoi de rugby à 7 qui s'est déroulé tout ce week-end au stade Jean-Bouin à deux pas des cours de tennis. 16 nations, dont la France, et surtout beaucoup d'ambiance dans les tribunes, Florent Vautier.
Une bière à la main, habillé d'un tutu rose et d'un débardeur blanc, Edouard est venu du Nord avec quelques amis.
C'est l'ambiance, c'est le rugby, il fait beau, sympa, on boit des bières, on est entre copains et c'est ça qui fait le charme du truc, quoi.
Quelques sièges plus bas, un groupe de licornes anime la tribune. Et parmi eux, Geoffrey.
C'est très agréable, on profite, il y a les amis, tout est bon pour faire la fête. C'est pour ça qu'on s'est déguisé aujourd'hui, on voulait s'amuser.
Le public vient aussi en famille, comme Hélène, venue de Paris.
C'est hyper festif, les gens participent, les gens sont ces bons enfants. C'est aussi le plaisir de regarder, de découvrir des équipes. Là, on vient de regarder Kenya, Pays de Galles, c'était absolument génial. Et pourtant, on n'a jamais mis les pieds ni au Kenya ni au Pays de Galles.
Des Kenyans présents en nombre et en décibels pour soutenir leur équipe. Roche est venu spécialement de Finlande.
Tout le monde ici est très excité pour supporter son équipe. On va tout donner.
Cette ambiance festive ravit les joueurs et en premier lieu l'équipe de France, son capitaine Jean-Pascal Barak.
C'est plutôt cool parce que bon, habituellement il y a autant de public, mais bon, il n'est pas avec nous. Donc là, c'est sûr que dès qu'il y a une percée et tout, le public se lève, nous on l'entend, donc ça nous pousse à aller plus loin et c'est un réel plaisir.
Jean-Pascal Barak, le capitaine de l'équipe de France qui a terminé 5e de ce Paris Sevens.
Le journal des sports de ce dimanche était présenté par Cédric Langrotte. Merci Cédric.